Et j'ai envie de te dire rebonjour sur ce podcast pour l'épisode numéro 5. Est-ce que tu veux présenter la série ou pas?
Je ne suis pas bonne pour les résumés.
Oui, mais... Alors moi, je suis peut-être meilleure pour les résumés. Enfin, je veux bien faire celui-là aussi si tu veux, mais enfin, bon, cette série, je l'ai pas pratiquée assez pour être hyper calée, mais bon.
Bah moi non plus, hein, donc de toute façon...
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la série qui, en français, s'appelle Newport Beach, et en anglais, s'appelait The O.C., parce que O.C., ça veut dire Orange County,
mm-hmm.
Et The Orange County, c'est le nom d'un quartier UP de Californie. Enfin, toujours est-il que, voilà, la série s'appelle The O.C. parce que ça parle du quartier hyper privé de Orange County, où il y a plein de gens qui ont plein de thunes, avec plein de grosses baraques, plein de grosses voitures... sont tous avocats ou businessmen, bref. Et dans cette série, nous suivons les aventures de Ryan, qui est un jeune désœuvré, qui lui n'habite pas du tout dans Orange County, il vient d'un autre quartier qui s'appelle Chino, qui est un peu la zone.
Un peu beaucoup la zone, même.
Un peu beaucoup la zone, et il se fait gauler après avoir volé une voiture, sauf que comme il est mineur, on lui assigne d'office un avocat pour le défendre. Et cet avocat va se prendre d'affection pour Ryan. Donc le ramener chez lui et l'héberger dans sa famille très très riche. Et donc on assiste dans cette série au fameux gimmick de « Je prends un personnage, je le mets dans un environnement qui n'est pas le sien et je regarde. » Voilà, c'est un peu le résumé de Newport Beach qui c'est durera...
Le choc des cultures.
Oui, le choc des cultures qui durera 4 saisons.
Oui, voilà. ça paraît beaucoup, je trouve, alors qu'en fait, non, on se dit 4 saisons, enfin 4 saisons, c'est peu en soi, mais ouais. Dans ma tête, les souvenirs que j'ai de la série, c'est long, déjà, en fait.
Alors oui, vous pourriez vous demander, suite à ce petit interlude, de pourquoi on a choisi Newport Beach. Alors, on a choisi Newport Beach pour, j'ai envie de dire, deux raisons. La première raison, c'est qu'on était arrivé à court des séries qui vraiment avaient marqué notre jeunesse et dont on se souvient encore aujourd'hui ou dont on les pratique encore aujourd'hui. Donc on avait fait un peu le tour et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on regardait quand on était jeune, dont on n'a pas parlé sur le reste des podcasts, donc c'est-à-dire ni Charmed ni Undo Stress. Et donc qu'est-ce qu'on a regardé qui à l'époque, nous plaisait, mais peut-être que maintenant, ça serait pas pareil.
Pas dingo.
On s'est dit, ben quand même, allez. Et donc, Newport Beach est venu à notre esprit. Donc, on a regardé Newport Beach. On a re-regardé le pilote de la série pour se remettre dans le bain. Est-ce que tu veux faire le résumé du pilote, Pauline, ou pas plus
Si, je peux.
Alors, vas-y.
Donc, le pilote, donc, bah, c'est bon, la situation que tu as déjà exposée, c'est-à-dire Ryan, jeune un peu perdu et vivant dans une famille un petit peu dysfonctionnelle, voilà, se retrouve entraîné par son grand frère dans des conneries. Ils volent une voiture, donc ils se font choper par les flics. Et donc, voilà, Ryan étant mineur, on lui assigne un avocat, Sandy. Parce que Sandy, en fait, Sandy, avec, en fait, pour expliquer, avec le recul, Sandy, c'est pour moi, il est resté pour moi le meilleur personnage de la série.
Oui.
Et en re-regardant le pilote, je comprends pourquoi. voilà, franchement, c'est un aperçu, je trouve, plutôt pas mal du personnage de Sandy.
Oui, c'est vrai.
Et donc voilà, donc Sandy, son avocat, vient pour le sortir de prison et effectivement il se prend d'affection pour ce jeune garçon perdu qui a l'âge de son fils et qui en plus a l'air très intelligent parce qu'il a des bonnes notes. Alors il va jamais en cours, il sèche, mais il a des bonnes notes, donc il sent qu'il y a du potentiel et donc il se dit c'est dommage, tu vas pas gâcher ta vie comme ça. Donc il cherche à l'aider et il lui donne son numéro de téléphone en lui disant écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, je suis dispo. En gros, c'est ça.
Vas-y, appelle.
Donc, en sortant de tôle, Ryan retourne dans sa famille toute pétée. Donc, on apprend que son père est en prison. Son frère vient d'y retourner parce que il a volé la voiture. Sa mère est visiblement alcoolique. Et en plus, elle sort avec un abruti bon à rien qui traîne à la maison et qui a l'air un peu violent. Voilà, donc situation familiale un peu craignos quand même. Et la mère de Ryan pète un câble en lui disant « Écoute, c'est pas possible, tu vas pas faire comme ton père et ton frère. Moi, je veux pas de ça chez moi, hors de ma vue, dégage. Donc, bon, il se retrouve un peu dans la merde, quoi. Il prend ses affaires, il part, il appelle des potes pour trouver un toit, quoi. Et désespéré, vraiment, dernier ressort, il sort le numéro de téléphone de Sandy, il se dit « J'ai rien à perdre, j'appelle. » Évidemment, Sandy débarque tout de suite sur son cheval blanc.
C'est une BMW, son cheval blanc.
Exactement. Et emmène donc Ryan chez lui, dans sa grande villa, dans un autre monde, hein, littéralement.
Ouais.
Et Ryan va donc découvrir ce monde avec... il va se lier d'amitié avec le fils de Sandy, Seth. Et puis développer un petit crush sur la voisine. Un petit peu. Et voilà, commencer à se mêler un petit peu à cette foule de gens ultra privilégiés, pétés de thunes, qui, pour se donner bonne conscience, organisent des galas de charité pour lever des fonds, pour je sais plus, les refuges de femmes seules, enfin des trucs comme ça.
Ouais.
Donc voilà, grosso modo, le pitch.
Ouais.
Du premier épisode. Voilà, qui sait un peu le qui sait qui qui définit un peu, qui présente un peu le ton pour la série et pour la première saison surtout.
Oui, c'est pas faux.
Voilà.
Est-ce que tu te souvenais bien du pilote ou pas avant de le re-regarder ?
Alors bof, parce qu'en fait je pense que je l'avais très peu vu. Je pense que on avait dû prendre la série en cours de route à l'époque.
Ouais.
Et en cours de première saison, et donc j'avais les grandes lignes, mais toute la partie du début où Ryan est à Chino, on va avec son frère, sa famille, ça me disait rien du tout. Donc, okay. Donc je l'ai peut-être vu, mais non, je me souvenais pas bien.
Ok. Moi je sais que je l'avais vu déjà. Alors je l'ai pas vu lors de la diffusion initiale, parce que c'est vrai que quand on a regardé la série, ça devait être une des rares séries qu'on regardait en même temps.
Oui.
On a dû choper en même temps la télé. Ça passait quoi sur TF1?
Ben je me demande, ça passait pas sur France 2.
J'ai un doute aussi, là. En parlant, j'ai un doute. Mais c'est pas une série qui a un profil France 2?
Eh ben non, mais pour moi, ça passait quand même sur France 2. J'ai l'impression que ça passait genre à l'heure du goûter après l'école.
Oui, ça c'est sûr. Ouais,
genre vers 17h.
Ouais.
Et pour moi... En tout cas, je vois pas du tout ça sur TF1, en fait. Je sais pas pourquoi, et je vois les transitions et demain dans le nouvel épisode de Newport Beach ou un truc comme ça, je vois ça sur la 2. Je sais pas pourquoi. Faudrait vérifier les chaînes de diffusion.
On vient de vérifier, après une coupure pas très longue, mais quand même, on vient de vérifier la diffusion française de Newport Beach. Parce qu'on n'arrivait pas à savoir quand est-ce que c'était diffusé et sur quelle chaîne. Donc on hésitait avec France 2 ou TF1. En fait, pas du tout, TF1 n'a jamais diffusé ça apparemment. C'est TF6 qui avait le droit de diffusion, qui était une chaîne du câble, une chaîne payante, qui disparut en 2014. Mais on n'a pas eu le câble, donc on n'a pas pu regarder sur TF6, donc il ne restait que l'option France 2. Sauf que, alors j'ai cherché sur le net, sur l'interweb, et sur l'interweb, il est écrit que France 2 a diffusé la saison 1, qu'ils ont arrêté à la fin de la saison 1 par manque d'audience. Et que du coup, on aurait vu, nous jeunes, que la saison 1 pendant sa diffusion entre les années 2003 et 2007. La série a 20 ans.
Bah ouais.
C'est dingue ça. Donc voilà, donc j'imagine qu'on a revu, après qu'on l'a revu en plus en détail lors des rediffusions.
Ouais, je pense. Parce qu'après, c'est passé sur W9 et tout, enfin, c'est le groupe M6 qui a acheté après les...
Oui, j'allais dire même actuellement, il y a de temps en temps des rediffusions de la série.
Ouais.
Et ça m'arrive de tomber dessus et de revoir des passages que j'ai vus quand j'étais jeune. J'ai l'impression que
c'est tout de suite.
Hein ?
De zapper tout de suite après.
Ouais, je laisse un peu en bruit de fond si je suis en train de faire autre chose, mais sinon c'est vrai que je zappe, je regarde très peu la télé en diffusion normale de toute façon, donc bon. Voilà, mon écran de télé me sert principalement, à regarder des films ou des séries sur des plateformes, donc les diffusions normales, je sais pas trop ce que c'est. Donc j'avoue que oui, ça peut m'arriver de tomber dessus inopinément quand j'allume la télé, mais ça reste pas très longtemps. Et surtout, j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes épisodes qui sont rediffusés.
Bah ouais, ça je pense que c'est pas qu'une impression. Moi.
Ouais, mais je peux comprendre parce qu'en fait, il y a des épisodes des dernières saisons qui sont un peu moins bien. La série était d'ailleurs arrêtée au bout de la 4e saison parce que les audiences commençaient à baisser fortement aux États-Unis aussi. Donc c'est logique qu'ils repassent que les premières saisons, les premiers épisodes, ceux qui marchaient le mieux, quoi. Donc voilà sur la diffusion. Je sais que moi je l'ai regardé en entier plus tard, que je me suis refait tous les épisodes parce que j'étais sûre qu'il me manquait des infos de quand on était jeune. Et donc je m'étais refait les 4 saisons en entier. Maintenant ça remonte un peu quand même. Je pense que c'était il y a fort longtemps. Et j'avais tout re-regardé pour être bien sûre d'avoir toutes les infos de la série. Bon, en fait, j'avais pas loupé grand-chose, mais. Mais à l'époque, je trouvais ça bien. Je pense que les intrigues de ces jeunes friqués qui avaient des problèmes de drogue, d'alcool, de grosses voitures, de oh, mon Dieu, le prochain gala, qu'est-ce que je vais mettre? Ça devait être, je sais pas, rigolo à regarder pour moi à l'époque.
Ouais. Non, mais je pense que pour nous petites, il y avait un côté, bah, tu sais, un peu le rêve américain, quoi. C'est-à-dire que
Ouais.
tu vois le côté, c'est à mille lieues de notre vie à nous, c'est super inaccessible, et en plus ils sont aux États-Unis, donc c'est trop bien, quoi. Enfin. Non, mais tu vois, je sais pas, dans notre tête, ça devait être, ouais, mais en fait, t'as l'impression que tous les ados américains là-bas, ils vivent comme ça, quoi. Alors que trop pas, mais. Tu
Alors que pas du tout.
vois, je pense qu'il y avait un petit côté, ouais, ça fait rêver, quoi. Je pense que c'était ça. Et puis, bah, les intrigues, enfin, comme c'est quand même une série pour les ados, bah, c'est normal, quoi. On était dans la cible.
Ah oui, on était clairement la cible de cette série quand c'est sorti. Et pourtant, 2003-2007, on n'était pas si vieille que ça. Hein.
Non, moi j'étais même plutôt petite.
Donc je pense vraiment qu'on a dû mater lors des rediffusions.
Ouais, je pense aussi.
En y réfléchissant là, vite fait,
Ouais.
je me dis ça devait être les rediff qu'on a tapé, c'est pas la diffusion initiale.
Bah, ça paraît tôt, ouais.
Bah, 2007, moi ça m'aurait fait 13 ans. Bon, à la limite, bon. À la fin, d'accord. Mais 2003, non. Ça faisait beaucoup trop tôt. Ça faisait beaucoup. Et puis moi, 13 ans en 2007, d'accord, mais toi, 10 piges.
Ouais, c'est ça.
Donc, non, je pense qu'on les a matés. Mais ouais, une des seules séries qu'on a dû mater en même temps, toutes les deux. Donc, ça devait être lors des rediffusions. Et de mémoire, j'ai l'impression que tous mes potes regardaient aussi. Au moment où moi j'ai gardé, donc je pense que la première diffusion a vraiment été oubliable.
Zappé, ouais.
Ouais.
Ouais, moi c'est pareil, mes potes ils regardaient aussi. Enfin, c'était la série, tu rentrais chez toi après, pendant le goûter, tu regardais ça, quoi. Et le lendemain, t'en discutais à l'école, quoi.
C'est vrai que c'est une des rares séries dont on a suivi la diffusion, enfin dont on regardait les épisodes vraiment à la télé. Donc, et puis ouais, qu'on essayait de suivre un peu les intrigues. Mais ouf, en y repensant maintenant. C'est vrai que c'est pas une série que je re-regarderais, je pense.
Non, franchement, il y a pas grand intérêt, honnêtement, c'est pas.
Non, c'est vrai que t'apprends pas grand-chose. Le premier épisode, le pilote là-dessus, est assez bien fait, dans le sens où il présente directement tous les écueils dans lesquels va tomber la série.
C'est clair.
Genre, les fameuses différences sociales qui vont être le cœur des relations entre Ryan et les autres, l'amourette entre Ryan et sa voisine, enfin la voisine de son avocat et de sa famille qui s'appelle Marissa, le fait que Seth, donc le fils de l'avocat de Ryan, le fils de Sandy, soit amoureux de la même fille depuis qu'il est tout petit, mais qu'il lui a jamais dit, et que machin et tout, ça va durer 4 saisons, ça on le sait déjà. Ça se voit dans le processus de présentation des personnages.
Après, il conclut quand même plutôt assez vite, hein. Parce que quand tu regardes le pilote, tu te dis « Ok, donc le mec, il va lui courir après pendant 3 saisons. » Et en fait, non.
Bah, il conclut assez vite, enfin...
Ah bah si, avant la fin de la première saison, il a conclu, hein.
7 ou Ryan ?
7.
7 avant la fin de la première saison ?
Ah oui ? Avec et oui, parce que... Bah oui, parce que tu connais bien en plus la technique des séries, c'est-à-dire que le ship principal, ils le font jamais arriver tout de suite. Et donc, il faut bien mettre un ship secondaire pour faire poireauter les gens. Et le ship secondaire qui, à mon sens, reste le ship principal, oui. Summer et Seth, avant la fin de la première saison, ils se mettent ensemble.
Ah, je me souvenais pas du tout de cette timeline-là.
Ah, si. Si,
si. Ouais. Ah oui, je ne me souvenais plus du tout ça. Pour moi, c'était vraiment très long. Dans ma tête, c'était resté très très long, tu vois.
C'est long parce que je pense qu'on a l'impression que c'est long parce que c'est un truc qui est très présent au début de la série, sur tous les épisodes. En plus, il y a une petite... Enfin, c'est qu'au début, ils se connaissent pas du tout. Et puis après, ils commencent quand même à se côtoyer et tout. Donc en plus, ils ont des rapports aussi. Je veux dire, on les voit évoluer ensemble. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est long. C'est-à-dire qu'ils sont...
Oui, ils sont souvent ensemble. Mais
voilà, pas... ils interagissent, mais ils sont pas en couple. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est très long.
Mais c'est vrai que je me souviens que c'était très long et que cette série faisait ce qui maintenant la rendrait pour moi unwatchable, entre guillemets. C'est le fait qu'il fasse durer plein d'intrigues, qu'il y ait plein de choses qui glandouillent. Alors, en fait, elle a un côté... Bah, c'est une série teen. Et donc, comme toutes les séries teen d'une époque, elle a un côté soap opéra.
Ouais.
Mon Dieu !
C'est clair. Il lance 50 intrigues en même temps. Chaque personnage a une intrigue. Et des fois, pendant 5 épisodes, ça avance pas parce qu'ils font avancer les autres. Et c'est affreux.
Et c'est vrai que tu retrouves tous les ressorts narratifs assez classiques des teen movies et des teen series un peu sérieux, entre guillemets, de la même époque. Donc, les problèmes de drogue. Là, chez les riches, bah, les drogues, c'est monnaie courante. Genre, ils achètent tous de la drogue, ils font tous des overdoses à balles. Tu te demandes comment ils sont tous debout et en vie, en fait.
C'est ça.
Ils boivent des quantités astronomiques d'alcool. C'est à se demander aussi. C'est comment ils font pour pas avoir de cirrhose. Non, mais vraiment, très sincèrement, parce que le pilote nous présente déjà des personnages très... pas stéréotypés, mais en tout cas qui auront des problèmes très ciblés.
Ah si, stéréotypés quand même.
Bah, stéréotypés, oui, mais tu vois, par exemple, on nous présente Marissa, donc fille, gamine ultra friquée, riche, qui est habillée à la mode des années 2000.
J'ai... Oh
j'ai rigolé en voyant ça, mais avec le ultra taille basse.
Ah mais, ouais. Ah mais grave, je me suis dit, putain, la mode des années 2000, c'était quelque chose, hein, quand même.
On était tous dedans, on peut critiquer, on l'a vécu, donc c'est bon. Mais le ultra taille basse avec le crop top, et puis et en bas, il y avait des baskets improbables. Sur la première scène qu'elle a, je crois qu'elle a des ballerines.
Ouais.
Oh, avec un bootcut à taille basse. J'étais là, c'est pas possible. C'est horrible. Sandy, à un moment, quand il prend le volant de sa énorme BM pour ramener Ryan chez lui à la fin de l'épisode, il est habillé en polo et un pantalon beige tranquille.
Ouais.
Il sort de la voiture et tu vois qu'il a des tongs aux pieds.
Ah ben, mais ils habitent en Californie aussi, Amélie.
Mais il est avocat, il roule en BM et il a des tongs aux pieds avec son pantalon.
Ouais, ça. Mais t'as vu le short de quand il revient de la séance de surf aussi, c'est pareil, son short, il est fun, hein. Franchement.
C'est vrai que la série, sur ce côté-là, cette série fleure bon les années 2000.
Ouais, mais tellement. Franchement, les gardes, et puis de tous les persos en plus, c'est saut années 2000, quoi. C'est cliché de fou, c'est moulant, tout est moulant. Non, mais les meufs, elles peuvent pas avoir un seul haut qui est pas moulant, quoi.
C'est vrai que les hauts sont extrêmement moulants, parce que les pantalons, il y a la mode des années 2000, c'est aussi un peu les bootcuts, les pattes def.
Et les pantalons baggy, mais justement, pour contrebalancer ça, t'es obligé d'avoir un haut super moulant.
C'est vrai que ça...
Sinon, ça a l'air d'un sac.
Oui, c'est vrai que si vous avez envie de faire un petit trip down memory lane avec la fashion industry des années 2000...
Ah, c'est génial.
Regardez cette série, elle est extraordinaire.
Super. Et puis, tu sais, les petits débardeurs, et puis on fait toujours dans la superposition dans les années 2000 aussi. Donc, les nanas, elles ont toujours un petit débardeur, et puis elles mettent un petit cache-cœur par-dessus. Ah, mais je trouve ça génial. Génial.
C'est vrai, j'avais complètement zappé. Oh mon Dieu, c'est vrai que là-dessus... Et puis les téléphones à clapet, n'oublions pas les téléphones.
Ah ouais, c'est génial.
Marissa,
c'est une époque. Franchement, c'est une époque.
Oui, je crois que Marissa, la première scène qu'on voit d'elle, donc elle est l'incarnation complète de la It Girl des années 2000.
Tellement.
Avec...
D'ailleurs, c'était ça, hein, cette série, ça l'a...
Oui, c'est vrai.
L'actrice est vraiment propulsée. Hein.
Ouais, l'actrice est devenue ultra célèbre à cause de ça, quoi. Donc, non, c'est vrai qu'il y a... Il y a des marqueurs comme ça, visuels très très forts, dont la série ne se cache même pas, parce que c'est pour nous vendre une image un peu idyllique, effectivement, de la vie de ces ados.
Mm.
Mais à côté, ils ont des problèmes improbables sur ce que c'est qu'un ado, quoi. Enfin,
ouais.
Comme d'habitude, comme dans tous les teen series ou les teen movies, c'est des ados qui gèrent des problèmes d'adultes.
Mais c'est ça, enfin, c'est... moi ce que je trouve dingue, c'est qu'en regardant le truc, je me suis redit, j'ai fait « putain, mais dans l'histoire, ils sont censés avoir 16-17 ans, quoi ».
Oui.
Et ils sont là, en fait, t'as l'impression qu'ils en ont 25 et, que, et qu'ils vivent leur vie, alors que par contre, ils sont toujours obligés, en sortant de chez eux, de dire « Maman, je vais chez Ryan ouais, !» C'est genre... Non, non.
Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas une série que je pourrais regarder premier degré. C'est pas une série dans laquelle je pourrais me prendre au jeu des intrigues que chaque personnage doit vivre.
Mm.
En tout cas, les personnages adolescents, parce que c'est vrai que, comme n'importe quelle série pour ados, les parents et les figures parentales ont une forte présence et ont des intrigues qui leur sont propres.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans beaucoup de séries pour ados. Les frères Scott, c'était la même. Enfin, c'est... Voilà, il y avait plein d'intrigues pour les adultes. Est-ce que c'était pour que chacun y trouve un peu son compte ? Est-ce que c'était pour permettre de développer des aspects que développer chez les jeunes, ça serait un peu glauque ? Genre... les tromperies de mariage, les détournements de fonds, les machins, les trucs. C'est sûr que chez des ados, ça marche pas.
Ouais, enfin, sauf que quand tu développes les addictions, l'alcool, le sexe, les tromperies aussi, enfin...
Oui.
Honnêtement, à part les détournements de fonds, ils leur épargnent rien aux ados.
C'est pas faux. Après, ils ont... Je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que les adultes, ils ont ces intrigues-là, mais de manière un peu plus... un peu différente. Il y a un exemple qu'on peut comparer, tu vois, c'est l'addiction à l'alcool. Il y a deux personnages féminins qui en souffrent dans la série, dans Newport Beach, durant les 4 saisons. Mm. T'as d'abord donc, Marissa,
mm-hmm.
qui est une des personnages ados de la série. Et ensuite, t'auras Kirsten, la femme de Sandy, qui elle aussi va devenir alcoolique. Et les deux situations d'alcoolisme, dans ma mémoire, ne sont pas traitées de la même manière, parce qu'il y en a une, c'est une ado, et l'autre, c'est une adulte, quoi.
Ouais. Oui, oui, c'est vrai.
Et je me demande si le fait que les personnages de parents dans les séries pour ados, le fait qu'ils soient aussi présents et qu'ils aient des intrigues des fois aussi nombreuses, mm-hmm. c'est pas pour permettre de développer ouais, certains arcs que tu développes pas avec des jeunes, quoi.
Si, si, non, mais effectivement, je suis d'accord là-dessus, parce qu'il y a des trucs que tu, malgré tout, tu ne pourrais pas te permettre de faire avec des personnages ados, mais, mine de rien, ils leur collent quand même tout ce qu'ils peuvent sur le dos, quoi, c'est-à-dire que,
oui, c'est sûr.
Même des trucs un peu illégaux, genre du détournement de mineurs et tout, des trucs comme ça, tu fais bon, oui. Alors ça, et en plus, ce que je trouve, à la limite, en plus, c'est un peu malsain, parce que ils font ces storylines-là, alors que, par exemple, parce que là, je pense à ça, je pense à l'histoire de... enfin, d'amour, si on peut appeler ça comme ça, entre Luc et la mère de Marissa.
Ah oui, c'est vrai l'adolescent qui sort avec la mère.
Voilà, à ce moment-là, il est censé avoir, je sais pas, 17-18 ans, sauf que le gars, t'as l'impression qu'il en a 26. Donc,
L'acteur devait en avoir 26, oui.
Bah, d'ailleurs, je pense. Parce que okay. J'avais regardé, il me semble qu'au moment de la série, en fait, la seule qui était vraiment jeune, c'était celle qui jouait Marissa. Qui avait pas 16 ans, mais en avait, je crois, 18 au début de la série.
Ouais.
Alors que c'est pareil, elle pourrait faire plus vieille, mais à la limite, elle était plus proche de l'âge, elle, qui a joué vraiment à l'écran, alors que tous, sinon, ils avaient pété la vingtaine, ils étaient tous à 20, 23. Et le problème de ces trucs-là, c'est que donc, tu te retrouves avec une storyline où, en fait, bah, t'as une adulte qui couche donc, avec un lycéen. Hein,
avec un mineur.
Donc mineur. Et sauf que, comme à l'écran, alors, ils le disent, la série, c'est pas bien, t'es au lycée, gna gna gna, il y a un petit côté, bon, elle se donne bonne conscience, quoi.
Ouais.
Et d'un autre côté, toi, tu regardes ça, et le gars, il a l'air d'avoir 25 ans. La meuf, c'est censée être une daronne, mais en fait, elle en a 32 à tout péter. Donc tu te dis, bah en fait, dans la vraie vie, ils ont pas tant d'écart que ça, et en fait, c'est pas tant choquant.
Ouais.
Tu vois, en tant que spectateur, je trouve que ça, ils jouent un peu là-dessus, j'imagine aussi, parce qu'ils auraient peut-être pas fait cette storyline-là avec Marissa, qui l'actrice, tu vois, elle avait vraiment 18 ans au moment, tu vois.
Oui.
Je sais pas, mais donc je trouve il y a un petit côté malsain de ah on met un truc un peu risqué, mais en même temps bon comme on sait que nos acteurs ils sont plus vieux, ça va quoi, ça va passer et puis les gens sont pas choqués et puis enfin tu vois je sais pas, il y a un truc on veut faire un peu dans la controverse mais en même temps on se protège, enfin je sais pas.
Très américain ça.
Ouais bah oui carrément.
Non mais c'est pas faux, t'as raison. Le côté oui effectivement on présente des arcs narratifs qui sont subversifs ou controversés et tout. Et en fait, vu la façon dont on utilise nos acteurs, ça ne l'est pas tant.
C'est ça.
Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça peut-être que c'est une série que maintenant, je ne pourrais pas regarder au premier degré. La regarder au second degré et critiquer tout le temps, toutes les deux secondes, dire « Non, mais ça, c'est pas possible. Quand t'as 17 ans, non. » Peut-être la laisser passer devant mes yeux et tout.
Parce que, ouais, mais tu fais ça sur un épisode, en plus, tu fais pas ça sur toute la série. Quoi,
parce que... Oui, voilà. J'allais dire, effectivement, re-regarder le pilote, là, ça n'a pas été un pinceau absolu. Mais j'avoue que ça a été moins prenant que d'autres épisodes qu'on a re-regardés pour le cadre du podcast, par exemple.
Ouais, c'est sûr. Je comprends. En plus, le souci, c'est que la série, elle, est vraiment, vraiment très premier degré.
Oui.
Donc, c'est compliqué aussi de... Si toi, tu le regardes pas sur le... dans cette optique-là, bah c'est compliqué aussi, quoi, parce que eux, ils sont vraiment... tout est super sérieux, c'est super drama, et...
C'est vrai que c'était une série teen un peu angst, un peu émo. C'était la série teenager émo.
Ouais, genre, mais j'ai vraiment l'impression que c'était aussi la mode dans les années 2000, parce que les frères Scott, c'était un peu pareil, hein. Alors j'ai pas, honnêtement, c'est pas la série que j'ai plus regardée, j'ai vu que 2-3 épisodes en passant, mais l'atmosphère avait l'air un peu semblable, c'est-à-dire que c'est, on est vraiment que dans le drama. Dès qu'il y a un truc qui s'arrange, ça couille ailleurs. Enfin, tu vois, c'est toujours, il y a toujours un truc qui va pas.
C'est vrai.
Et c'est vraiment l'axe de ces séries, en fait. C'est, c'est comme une comédie. Il y a rarement des trucs qui vont pas. Mais là, je trouve qu'ils en faisaient des caisses pour des séries ados surtout.
C'est peut-être pour ça aussi que maintenant, ça serait cringe à regarder premier degré pour nous. C'est que on a peut-être vu depuis d'autres séries ados qui arrivaient mieux à jongler entre du sérieux, des thématiques un peu lourdes, un peu réelles en plus, et des choses un peu plus légères. Je pense à Sex Education par exemple, qui est une série qui cible un public assez ado.
Ouais. Ouais, mais ça a 20 ans de plus, tu vois. C'est...
Oui, mais du coup, c'est pour ça, c'est que est-ce que maintenant, comme on a vu ce genre de série et qu'on a été cliente de ce genre de série, parce que, par exemple, Sex Education, c'est targeté pour des ados de manière officielle, mais les thèmes que ça traite font que s'il y a un côté un peu universel et que tu peux te prendre au jeu de la regarder. Moi, j'aime beaucoup cette série et je suis plus trop dans la tranche d'âge qui est visée.
Mais... plus du tout, même.
Après, on reste ado jusqu'à tard maintenant, hein, donc ça va, hein, c'est bon.
Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais parce que je pense que c'est juste aussi la manière dont les séries sont faites, parce qu'au final, l'audience, enfin la target, c'est une chose, mais effectivement, je pense qu'une série comme Sex Education, la manière dont c'est fait, c'est en fait c'est les ados et plus.
Et les caractères, enfin les personnages, pardon, sont tous extrêmement stéréotypés ou marqués et évoluent peu hors de leur cadre, en fait. Ils changent très peu, tu vois. Sandy commence le pilote, tu l'as dit déjà tout à l'heure en disant que tu te souvenais que c'était ton perso préféré et qu'en re-regardant le pilote, tu te souvenais pourquoi. Sandy évolue très peu de ce personnage d'avocat avec la main sur le cœur, ancien. D'un quartier pauvre lui aussi, qui se rend compte de la chance qu'il a, qui veut aider tout le monde et tout. Il change très peu de ce cadre-là.
Non, c'est vrai.
À un moment, on essaye de lui caler une affaire, une liaison extra-conjugale avec une autre femme. Personne n'y a cru, mais rien. Personne ne pouvait y croire pendant 2 secondes. C'était tellement hors cadre personnage que...
Ils essayent oui et non, c'est surtout... Ils font surtout passer ça par le personnage de Kirsten, de la femme de Sandy, qui elle se fait un peu des films en fait, mais dans les faits, nous, on sait qu'il n'y a rien. Le spectateur sait qu'il n'y a rien.
Ouais, mais c'est ça. C'est que, du coup, Sandy évolue jamais. Kirsten évolue peu aussi. Elle change d'avis par rapport à Ryan au départ, qu'elle n'est pas très contente de devoir accueillir dans sa maison. Mais bon, voilà. Fait confiance à son mari, donc elle l'accueille. Et après, elle change d'avis. Elle le considère comme son propre fils, etc., etc. Mais sinon, elle évolue peu. Seth, il évolue peu aussi. Il est amoureux dingue de Summer. Il arrive à sortir avec Summer. Et il adore faire des dessins et les personnages de bande dessinée et de comics et tout. Et il évolue pas beaucoup.
Mais il n'y a aucun perso qui évolue, en fait, parce que c'est... Enfin, dire, je pense que c'est propre aussi à ces séries, c'est-à-dire que tu leur donnes un... Il y a tellement un cadre pour que l'histoire fonctionne,
ouais,
que tu peux pas faire trop sortir les personnages de leur cadre, parce que bah, sinon, ton équilibre déjà un peu précaire, et bah, il est pété, en fait.
C'est peut-être, du coup, la différence aussi entre... les séries ados de l'époque et maintenant, c'est que l'omniprésence du cadre à l'époque, elle faisait toute ta série.
C'est ça.
Et du coup, comme tu viens de le dire, tu pouvais pas faire sortir les personnages du cadre parce que ta série repose avant tout sur le cadre. Mm. Et sans ce cadre, t'as plus rien. Et c'était un peu la même chose, en fait, je crois, avec les frères Scott, parce que c'est pareil, c'est pas une série que j'ai suivie de manière assidue. Je connais les personnages, j'ai dû voir tous 3 épisodes, pareil.
Mm.
Mais c'est pareil, le cadre est extrêmement défini, assez fort, on retrouve les mêmes oppositions sociales. Enfin, voilà, c'est des choses, des archétypes, des environnements et des intrigues extrêmement dessinées. Donc c'est vrai que les personnages ont peu de latitude pour évoluer, quoi.
C'est ça. Mais d'ailleurs, pendant qu'on est en train de dire ça, en fait, assez bizarrement, le seul personnage auquel je peux penser qui évolue dans Newport Beach, c'est Luke. Parce que... Bon, alors déjà, lui, il fait pas les 4 saisons. Donc, s'il voulait faire évoluer, fallait faire vite. Mais parce qu'en fait, on commence, notamment dans le pilote, là, avec Luke, le cliché du mal-alpha toxique. Oui, tout ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que déjà, la première fois où on le voit, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont pas fait ça.
Bah si.
Le cliché, j'avais jamais vu cette scène. Et la première fois on le voit, donc c'est donc Marissa dont on parlait tout à l'heure est devant chez elle, elle attend en fait qu'il vienne la récupérer.
Mm-hmm.
Et le gars arrive dans sa bagnole, la musique à fond, sa bagnole c'est une espèce de gros pick-up rutilant, mais cliché au possible. Lui il a le petit collier de perles ou de coquillages, je sais pas quoi, autour du...
Le rat du cou.
Le rat du cou avec le col de chemise ouvert, enfin mais le... Oh là là, le cliché du kéké bobo, quoi. Et il est là, et tout de suite, il voit que sa meuf est sur le bord de la route en train de parler à un autre gars qu'il ne connaît pas, donc en l'occurrence Ryan, et tout de suite, il a ce regard méchant en mode de... le cliché du gars qui supporte pas que sa nana ait des interactions avec d'autres gars. Et tout de suite, on sent qu'il se dit, celui-là, je le déteste. Je le connais pas, je sais pas qui c'est, mais il parle à ma meuf et je le hais.
Oui, c'est vrai, ça.
Et en 5 secondes, on se dit, ok, donc celui-là, déjà, super. Et ça manque pas, avant la fin de l'épisode, il commence à se taper dessus, évidemment.
Oui.
Et d'ailleurs, ça, c'est un peu un truc pendant... Alors, je sais pas si ça dure toute la première saison, mais moi, dans mon souvenir, quasiment tous les épisodes, Luke et Ryan se tapent dessus à propos de Marissa, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc omniprésent dans la série.
C'est vrai. Non, t'as raison. J'ai un souvenir de ça aussi.
Je sais pas combien de temps ça dure en vrai, mais j'ai l'impression que c'est un truc... tu vois, un des axes type soap, où t'as l'impression que ça en termine jamais, et tu te dis, mais à un moment, ils vont arrêter de... Enfin, je sais pas, ils sont censés... En plus, on leur donne que des intrigues d'adultes, et ils se comportent vraiment comme des gosses, quoi.
Oui, c'est vrai, et puis ça fait vraiment combat de coq, ils sont en train de se disputer une nana, enfin, c'est horrible. Mm. Marissa, elle est vraiment un morceau de chair... Enfin, c'est vraiment affreux. Genre, voilà, elle est là pour faire interagir les mecs. En fait, c'est que j'ai juste un prétexte. Elle a pas de pensée individuelle propre pendant un moment parce qu'elle ne sert qu'à faire se battre les gars, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est vrai que c'est pas fou. Mais c'est, par contre, Luc évolue beaucoup. Il a une évolution parce qu'on lui donne des intrigues qui sortent un peu du schéma des autres. On parlait tout à l'heure de la relation avec. Avec la mère de Marissa, parce que du coup, effectivement, Luke sort avec Marissa, Après, il rompt. Et ensuite, il sort avec la mère de Marissa. Voilà. Pourquoi pas.
Qui en soi est un peu problématique quand même. Mais bon,
mais bon écoutez.
Mais bon, si on devait s'arrêter sur toutes les intrigues problématiques de cette série, je pense qu'on...
Oui, c'est vrai.
On n'en terminerait jamais, hein, parce que ça ne s'arrête jamais quand même.
Ça sera un petit peu long. Donc, il y a cette intrigue qui sort du cadre et qui le place dans une position un peu particulière. Et là, tu te dis, wow, c'est chelou. Il me semble qu'il y a une intrigue aussi avec le fait que son père devienne homosexuel. Enfin,
ouais.
Il a une relation homosexuelle. Enfin, il ne devient pas homosexuel, c'est mal dit, mais...
Non, mais en gros, oui, il trompe sa femme avec un homme et son fils le découvre. Son fils qui, entre parenthèses, est un petit peu homophobe sur les bords.
Oui, il me semble qu'il y a ça aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire d'homophobie latente chez lui. Et après, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'impression qu'il change. C'est parce qu'en fait, il était homophobe et c'était un des propos qui était souvent ramené avec Seth, parce que Seth présenté comme un personnage masculin, mais avec des failles.
Sensible. Qui est sensible.
C'est ça. Et du coup, un des premiers mots que lui dit Luc lors du premier épisode, c'est « Salut Seth, toujours gay
?»
On adore, c'est totalement random comme truc.
Totalement gratuit en plus. Hein,
ouais. Puis ça n'importe rien. En plus, cette phrase, elle est lâchée comme ça. Il n'y a rien qui suit. Y a pas de... enfin, c'est très bizarre pour nous présenter le personnage de Luc et la dynamique qu'il a avec Seth. C'est assez chelou.
Bah, après, je trouve qu'au contraire, ça situe bien le personnage de Luc qui au début de la saison 1, est vraiment
un bouffon.
Un bully, quoi. Enfin, c'est...
Ouais.
Il est bouffon, il est toxique au possible, il est super possessif sur sa meuf, mais en même temps il la trompe. Enfin, vraiment le gars, le mauvais garçon de la série, on va dire. Vraiment, c'est
le bad boy.
Ouais, parce que Brian est un peu présenté comme un bad boy aussi, parce que lui il a une vie difficile, tu vois, et tout, mais lui c'est le bad boy gentil, parce que il a que des bonnes intentions. D'ailleurs, tout de suite, il cherche à aider Seth et tout. Enfin, tu vois, c'est bad boy, mais faux bad boy. Alors que Luke, c'est vraiment censé être le méchant bad boy.
Oui, c'est vrai. C'est Ryan, c'est le bad boy à cause des circonstances. Il n'a pas eu le choix, il a dû faire ça. Luke, c'est un con. Enfin, il n'y a pas trop non plus de... C'est un bad boy, mais c'est un bad boy riche. Donc, du coup, c'est tout de suite quelqu'un de très, très antipathique parce que... Il est privilégié, il s'en fiche complètement et il fait ce qu'il veut tout le temps et c'est assez insupportable. Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi d'évolution chez Luke, c'est qu'il perd son argent. En fait, c'est ça, c'est pour ça qu'il quitte la série à un moment. C'est parce que son père donc trompe sa mère avec un homme, ok, ses parents divorcent et il y a une histoire de thunes, ils n'ont plus assez d'argent pour vivre à Orange County.
Alors oui, c'est vrai. Oui, ça doit être pour
et
ça.
Et du coup, Luke devient gentil au moment où il devient pauvre.
Ben, je suis même... Non, pour moi, ça vient un peu avant.
Oui, mais il y a quand même un rapport avec l'argent, j'ai l'impression.
Alors oui, mais pour moi, il y a aussi quand même un rapport avec le fait qu'il accepte après, en fait, son père et la nouvelle vie de son père.
Oui, c'est vrai.
Et parce que quand il quitte la série, bon, je pense que c'est juste l'acteur voulait se barrer, donc ils ont créé une storyline pour qu'il se barre, mais...
Ouais.
Quand il quitte la série, il part quand même vivre avec son père, alors que... Enfin, alors que ouais, au début, quand il apprend que son père a une liaison avec un homme, il est fou, quoi. Il pète des câbles.
Ouais.
Et au final, il l'accepte. Ça le rapproche d'ailleurs vachement de son père. Il part vivre avec lui et tout. Enfin, donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une évolution avec lui. C'est que ils sont partis d'un extrême ultime et ils ont quand même réussi à le faire devenir un gars. Alors peut-être pas sympa et un personnage que t'aimes, mais en tout cas plus agréable, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est le seul chez qui on observe ce vrai changement, parce que moi je persiste quand même, je maintiens que c'est aussi lié à son changement de statut social dans la série. Genre les autres, ils restent tous comme ils étaient, c'est-à-dire que Ryan vient d'un milieu pauvre. Il va vivre chez des riches, mais il reste pauvre. Enfin, je veux dire, il reste Ryan. Et d'ailleurs, on le voit dans la dernière saison de la série. En fait, il suit le même parcours que Sandy.
Ouais.
Il vient d'un quartier pauvre, il va faire des études, il va réussir à se faire aider et donc à se sortir de son milieu. Mais il va revenir à ses racines pour aller aider les jeunes qui étaient dans sa situation.
Ouais. Mais il ça, fait... c'est plutôt une belle trajectoire, je trouve, que tu
oui.
Donner au perso.
Mais du coup, lui, en fait, Ryan et Sandy sont un peu les deux côtés d'une même pièce, en fait. C'est voilà ce que Ryan pourrait devenir s'il fait les bons choix, entre guillemets. Mais dans leur cœur, il reste des gens qui viennent d'un milieu difficile et qui n'ont pas eu une cuillère d'argent dans la bouche quand ils étaient petits. Et donc, du coup, ça change un peu leur regard aux choses. Mm. Alors que Kirsten et Seth composent l'autre partie de la famille recomposée de la série. Eux, ils sont toujours nés dans l'argent et ils ont un statut qui ne changera pas non plus. Et donc, ils ont des réactions qui ne changent pas à ça. En fait, pour moi, le rapport aux gens et à l'argent, comme il évolue pas pendant la série, c'est aussi pour ça que les personnages évoluent pas. En fait, ils ont toujours les mêmes positions.
Mmh.
Et Luc est le seul qui évolue, mais c'est aussi le seul qui a un rapport à l'argent qui change pendant la série.
C'est vrai.
C'est le seul qui passe d'un côté à l'autre de la barrière.
Non, t'as raison, j'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai.
Et c'est peut-être pour ça qu'ils changent. Tous les autres, en fait, ils sont soit pourris à la moelle dès le départ, parce que c'est des gens qui sont pas bien, et le fait qu'ils aient de l'argent, ça exacerbe encore plus ce truc, parce qu'ils se sentent tout permis, tout puissant, etc. Mm. Soit c'est des gens qui sont bien, et le fait qu'ils aient de l'argent, bah, ça n'accentue pas leur bonté, mais en tout cas, ça les transforme pas en gros connards.
Mm.
Voilà. Soit c'est des gens qui avaient pas d'argent, et qui étaient des gens bien ou des gens pas bien, mais ils évoluent pas, ils restent dans leur cadre. Tu vois, le frère de Ryan, par exemple, qui est pauvre et qui est un gros con, il reste un gros con. Il change pas de statut, il change pas de rapport. Enfin, pour moi, il y a un lien entre les deux. Tu vois ?
Ouais, je comprends.
J'ai vraiment l'impression que c'est un peu lié. Et c'est peut-être aussi pour ça que la série, à l'époque, quand on était plus jeune, elle marchait bien avec nous, parce qu'il y avait le rêve américain de la thune aussi.
Mm-hmm.
Et de ce que veut faire la thune, on avait tous envie d'être Ryan et de se dire « Ouais, quelqu'un de riche va bien me chercher et je vais aller vivre dans une grosse maison près de la plage. »
C'est ça.
Mais maintenant qu'on est un peu plus vieille, peut-être qu'il y a aussi ce truc de se dire « Ça marche pas comme ça et j'arrive pas à mettre assez en pause mon incrédulité. » Retour à un autre épisode.
On en revient toujours là.
On vous invite à aller écouter l'épisode où on parle de la suspension d'incrédulité. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être que maintenant on n'arrive pas assez à la mettre en pause parce que ça nous paraît trop gros comme ressort narratif, quoi.
Ouais, bah puis je pense qu'on a surtout pas envie de la mettre en pause parce que c'est totalement déconnecté de la réalité, en fait. Enfin, vraiment, c'est...
Alors que c'est présenté comme une série qui se passe dans un cadre réel. Et c'est pour ça que ça marche pas, peut-être aussi. Que ça marche plus.
Oui.
Bon, en tout cas, ça marche plus sur nous parce que comme on le disait tout à l'heure un peu en off, j'ai relu tout à l'heure des avis sur... alors, il y avait Allociné et Beta Série, qui est un site ou une application, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de compter et de valider les épisodes, les séries, les films qu'on a visionnés dans notre parcours de spectateur ou spectatrice. Et donc, j'ai retrouvé l'affiche de Newport Beach. Et je regardais les avis en dessous, et il y a des personnes qui ont écrit des avis en disant « Ah, série de ma jeunesse, je kiffe !» Donc, ont mis des bonnes notes parce que c'est des séries qui sont liées à leur enfance et donc pour laquelle ils n'ont plus trop d'objectivité, ce qui est totalement compréhensible. On est pareil sur plein d'autres séries.
Mm-hmm.
Et à côté, j'ai lu des avis de gens qui ont vu la série il y a peu de temps, genre 2022, et une personne écrivait « J'étais passée à côté quand j'étais jeune, je viens de la voir, cette série est extraordinaire. » Et alors, oui, c'est, moi je me suis posé la question, je comprends pas que ça trouve encore son client en 2022, ce genre de série. Nonobstant la fashion des années 2000 et les mauvais choix vestimentaires, hein, je parle pas de ça du tout. Je parle vraiment d'un point de vue construction de la série et narration. C'est des types de séries qui existent plus comme ça maintenant. Et je pense qu'il y a une raison, c'est parce que maintenant, ça marcherait plus, quoi.
Non, puis en plus, je pense que maintenant, on est quand même... De par la diversité des séries aussi qu'on peut regarder, parce qu'avec les plateformes, ça a quand même vachement multiplié le nombre de séries auxquelles on a accès, et même le nombre de séries qui sont produites, en fait, de base. Je pense qu'on est aussi plus habitué à avoir des séries de meilleure qualité.
Ouais.
Plus actuelle aussi dans la manière d'être écrite et d'être réalisée. Donc je pense qu'on est habitué maintenant à une meilleure qualité
Et donc, forcément, quand t'as un truc comme ça, bah, quand t'es habitué à mieux, c'est compliqué de revenir à moins bien, quoi.
Ouais.
Et donc après, tu vois, peut-être que la personne qui a mis cet avis-là, peut-être que c'est pas quelqu'un qui consomme beaucoup de séries, ou... Je pense que ça dépend aussi de ton rapport avec ça, tu vois, ou ce que tu regardes comme type de série. Si c'est quelqu'un qui est fan de soap, je peux comprendre que encore aujourd'hui, elle trouve son compte dans cette série, tu vois. Ça dépend. Oui. On sait qu'on ne sait pas qui a écrit cet avis, mais
ah bah non, pas du tout.
Mais effectivement, moi, aujourd'hui, je pense que même si je la découvre aujourd'hui, je pense pas que j'y trouverais un intérêt dingue, en fait, parce que. Ouais. Parce qu'en plus, il y a vraiment des personnages que je trouve antipathiques, enfin vraiment qui m'irritent, qui m'exaspèrent. C'est vraiment que je trouve insupportable.
Genre la mère de Marissa, par exemple.
Genre la mère de Marissa, même Marissa elle-même, alors pas tout de suite, mais je sais qu'après, son personnage évolue d'une manière qui, moi, m'exaspère. Enfin, évolue, ouais, si on peut appeler ça évoluer, mais il y a aussi dans les saisons d'après un personnage qui s'appelle Oliver.
Ah oui,
oh là là. Mais détestable.
Tout ce qui est toxique en un seul mec là-dedans, tout compacté.
Et vraiment détestable. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de persos comme ça que je n'aime pas du tout, et je me vois pas aujourd'hui, en découvrant la série, me dire ah, mais c'est super. Non, en fait, il y a plein de trucs qui vont pas, en fait.
Oui, c'est ça. Je pense que ça peut dépendre de. Effectivement, qu'est-ce que tu consommes habituellement comme type de contenu sériel, mais également quelle intention t'y mets. Tu vois, par exemple, ça peut être une série guilty pleasure où tu sais que c'est nul, tu sais que les intrigues sont nulles, tu sais que les personnages sont antipathiques et tout, mais il y a un truc malsain à y revenir un peu en disant j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. Vraiment à la forme d'un soap, en fait.
Ouais, ouais. Mais ça, je peux tout à fait le comprendre, parce que moi-même, je l'ai sur des séries.
Ouais,
mais en tout cas pas sur celle-là, quoi. Donc, mais par contre, oui, c'est un truc que je peux comprendre, et c'est possible que.
Bah peut-être que après, effectivement, comme on l'a déjà vu et que maintenant on se verrait plus la regarder, c'est peut-être surtout parce qu'on l'a déjà vu, en fait, qu'on réagit comme ça.
C'est possible.
Cette personne l'ayant jamais vu avant, peut-être qu'elle a juste vu une série, donc avec des défauts certainement, mais avec des phénomènes, des arcs narratifs qui lui convenaient. S'il y a un truc, par contre, que je retire de cette série, c'est le générique.
Oui.
La musique.
Ah bah, musique qui, elle, pour le coup, a très bien vieilli.
Oui.
Franchement.
Ouais, de ouf.
Et je me souviens qu'à l'époque, quand on regardait, j'avais la chanson sur mon MP3, parce qu'à l'époque, on avait des MP3. Et je me souviens que j'avais ça et que c'était une chanson que j'aimais beaucoup. Et là, en regardant l'épisode, eh ben, je me suis surprise à rechanter, en fait, le générique, et à me dire « Putain, ça, c'est un générique qui a vachement bien vieilli, quand même. »
Ouais, mais j'ai fait la même. Tout d'accord avec toi, j'ai fait exactement la même. J'ai chanté le générique. Et je me souvenais aussi de la musique du générique de fin, parce que c'était une époque où il y avait des génériques de fin. Mm. Et ça m'a rappelé combien la musique était importante au cœur des séries des années 2000.
Ouais.
Parce que c'est le début de la commercialisation en masse des CD ou des singles liés aux séries, des compilations liées aux séries, des débuts des téléchargements internet avec des musiques de séries. Et donc, en fait, il y a plein d'artistes qui sont passés dans Newport Beach pour faire de la musique aussi, donc, que ce soit en BO ou dans le cadre même de la série en tant que groupe qui faisait un concert pour un gala ou pour je sais pas quoi. Et je me suis remémoré combien la musique avait une place importante à l'époque dans les séries.
Ouais, ouais oui, c'est vrai. Le générique est top, et puis même d'une manière générale, je trouve que les musiques qui étaient utilisées en fond,
ouais,
dans cette série étaient pas mal.
C'était un peu aussi la marque des séries ados, ça, les musiques, ouais, pop dans l'air du temps.
Oui.
Qui fonctionnent bien, qui sont partie quasi, enfin qui font quasiment partie de la diégèse. Ah, c'était dur à dire là. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que c'était en faire. Donc ouais, les musiques qui faisaient quasiment partie de la diégèse, c'était une marque de ces années-là aussi.
C'est vrai, parce que dans Charmed, par exemple, c'est pareil, il y avait pas mal de groupes qui venaient dans la série.
Ah oui, c'est vrai.
Au P3.
Au P3.
Et à chaque début d'épisode, souvent, quand t'as le plan sur le Golden Gate et tout, t'as aussi souvent une musique très actuelle, enfin, très au moment, quoi, qui passe. Donc, t'as des artistes très, très années 2000. Mais des fois, quand je regarde ces épisodes de Charmed, eh ben, je me dis, c'est des chansons qui, encore aujourd'hui, enfin, qui sont restées, tu vois.
Ouais.
Qui sont pas restées bloquées dans les années 2000. Et qu'on entend toujours des fois sur, tu sais, sur une émission télé, ils te mettent ça en fond et tout.
Ouais.
Et donc je pense en fait les années 2000 pour la musique c'était quand même.
Oui, c'est vrai que c'était pas mal.
Important, ouais. Il y a eu des trucs pas mal.
Et qui ont marqué, nous ont marqué aussi parce que c'était dans les séries qu'on regardait quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est pas faux. T'as raison.
Petite parenthèse musicale.
Oui, exactement. quoi dire de plus pour conclure, à part le fait que c'est une série qui a peut-être marqué notre adolescence, mais qu'aujourd'hui, bah, bof.
Ouais. Bah après, on n'a pas laissé le suspense, parce que dès le début, on a annoncé la couleur en disant, ouais, bof.
Oui.
On va vous parler d'une série aujourd'hui, bof.
Après, je regrette pas de l'avoir regardée à l'époque, parce qu'elle a quand même marqué un peu la période de télé de ces années-là, quoi.
Mm-hmm. Oui, donc, oui, c'est sûr.
Mais effectivement, maintenant, je me dis, il y a mieux et j'irai plus voir ailleurs. Il y a des gens qui en sont très fans. Il y a peut-être des gens parmi ceux qui nous écoutent là qui sont très fans de Newport Beach.
Et qui sont en PLS depuis tout à l'heure.
qui sont en train de nous envoyer du hate mail depuis tout à l'heure, genre des commentaires de l'enfer pour nous défoncer. On est désolés, mais c'est vrai que ce n'est pas une série vers laquelle nous, on retournerait. Le truc positif qu'on pourrait dire quand même, si, c'est que les personnages des parents, Kirsten et Sandy, bah, ils sont cool. Et qu'à la limite, regarder la série pour ça, ça peut se comprendre.
Ouais, franchement, ouais.
Parce qu'ils sont vraiment très, très cool. Et je crois que c'est une des séries qui était donc targetée pour les ados. Et donc targetée pour moi à l'époque où je la regardais. Mm-hmm. Mais dans laquelle je shippais plus Sandy et Kirsten que les autres personnages.
C'est clair.
En fait, au milieu de cette série où bon, t'as que des intrigues un peu over the top et tout,
ouais.
Je trouve que c'est les seuls quand même qui ont une relation saine. Même au-delà du fait qu'ils soient mariés, juste une relation saine en fait où bah, ils communiquent. Enfin, là, par exemple, dans l'épisode, Kirsten exprime clairement qu'elle se sent pas à l'aise avec Ryan à la maison et tout. Mais ça rentre pas dans le conflit, forcément, en train de se gueuler, de jeter des assiettes partout.
Oui, c'est vrai.
Enfin, voilà, ils communiquent leurs émotions et leurs sentiments, de manière sereine.
De manière non violente.
Ouais, voilà, et puis vraiment de toute façon, je sais qu'avec toi, je peux dire ça et on s'entend et on en discute ensemble
ouais.
Et je trouve que c'est pas mal parce que enfin ouais, au milieu de la série où les gamins ils passent leur temps à se taper dessus, Marissa et sa mère ont une relation super dysfonctionnelle.
Oui, c'est vrai aussi, ouais.
Hein, tout le monde, ouais, même les ados entre eux, ils sont enfin bon, après c'est des ados donc on peut les excuser, admettons quoi, mais
C'est vrai qu'on pourrait résumer cette série en disant que c'est une représentation des rapports dysfonctionnels entre plein d'humains différents. Entre les enfants et les parents, entre les enfants et les enfants, entre les parents et les parents. Mmh. Et qu'au milieu de tout ce naufrage dysfonctionnel, il y a une famille qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est la famille de Sandy, Kirsten, Seth et Ryan. Quoi.
Ouais.
Et qu'ils arrivent... à se soutenir les uns les autres, mine de rien, quand même.
Mmh.
Mais c'est un peu le seul truc que j'en retire de positif, en fait. C'est les dynamiques familiales au sein de cette unité très, très précise et particulière dans la série, quoi.
Mmh.
Parce que sinon... rien.
Ouais, j'essaie de trouver un truc, mais c'est vrai que...
Là, ouais, c'est. Je pense que on est aussi pas sévère, mais qu'on est aussi un peu désabusé par rapport à cette série, par rapport à Malcolm, par exemple.
Mm-hmm.
Parce que Malcolm, c'est une comédie et ça se vend pas comme une série sérieuse. Et donc, du coup, tu t'attends pas à ce que les personnages aient besoin d'évoluer beaucoup. Et pourtant, ils le font quand même.
Ouais.
Et c'est peut-être pour ça qu'on est plus blasé de Newport Beach. C'est qu'en fait, elle se vendait comme série hyper sérieuse, qui se prend en tout cas très au sérieux.
Mmh.
Et cependant, les personnages ne changent pas d'un iota et évoluent pas. Et du coup, c'est plus décevant qu'autre chose. Voilà, voilà. Est-ce que t'as d'autres trucs à dire ?
Oh, bah, je pense qu'on a assez démonté la série comme ça.
Oh, on l'a pas démonté.
On a mis les formes.
Je te laisse le mot de la fin.
Allez.
Allez.
Bien, merci à toutes et à tous. Maintenant, je vais faire attention.
Oui.
Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
Oh, yes, j'adore. En plus, tu changes d'intonation pendant que tu lis. C'est vraiment n'importe quoi, je ne sais pas comment je fais ça. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California.